France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle a été la directrice de la danse des quatre cérémonies des JO de Paris. Son spectacle Static Shot est de retour en mai, à Paris aussi. La chorégraphe Maud Le Pladec sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, on parle de la comédie musicale Titanic. C'est au Lido, à Paris, et d'une adaptation de La Mouette de Tchekhov par Elsa Grana. Ça, c'est à la Comédie Française. Vous écoutez les Midis de Culture et bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue aussi aux critiques du jour, Zoé Sfez, productrice de la série musicale sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour Marie Sorbier, rédactrice en chef de Yo et puis productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour à toutes les deux. On commence donc avec du lourd. Titanic au Lido, le nouveau haut lieu de la comédie musicale de la capitale. Au même moment, on peut aussi voir le show à Sydney, à Chicago, à Londres, à Montréal. Bien sûr à New York, c'est là qu'il a vu le jour. Sur une idée de trois co-auteurs, Marla Mindel, Constantine Rouzouli et Ty Blue. Et l'idée, et ben c'est donc que Céline Dion ne se contente pas de chanter les tubes de Titanic, non. Elle raconte sa version du naufrage. C'est surtout l'occasion de réentendre les tubes américains, anglophones de la diva et de revisiter l'histoire de Rose et de Jack dans une version très gay et camp. On commence avec un avis rapide. Zoé Sfez.
Alors, en fait, est-ce que ce spectacle est vraiment ce que vous venez de dire? On peut clairement en douter. Alors, moi, je dirais, c'est un voyage au cœur de la pop culture gay et pas queer, hein, vraiment gay américaine. C'est absolument génial, sans doute, si vous allez le voir à Off-Broadway, que vous avez toutes les références, que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes face à un public conquis avec cette troupe. Mais alors, c'est très difficile à recevoir quand on est en France pour plein de raisons, notamment parce que je pense qu'une bonne partie du public n'a pas tout à fait les refs ni la culture, et surtout, c'est la chose la plus intéressante mais aussi sans doute la plus déceptive, on parle pas de la même Céline Dion, les Américains et nous. Et ça, c'est sans doute à la fois quelque chose qui nous raconte plein de choses sur ce que c'est Céline Dion, mais du coup, il y a clairement une forme de déceptivité dans ce spectacle.
Marie Sorbier.
Oui, alors je vous trouve très gentille, hein, Zoé. Moi, je ne sais pas si on peut trouver ce spectacle génial, quel que soit l'endroit de la planète où on le voit. Alors, malgré une technique et une précision rythmique, ça, on ne peut pas leur enlever. Ils savent faire le show et le show est là. Mais ça pêche tellement par le fond qui nous semble graveleux, qui est daté et surtout qui manque totalement de sens, c'est-à-dire qu'on peut prendre une esthétique, hein, moi je suis pas contre le mauvais goût, le mauvais genre, c'est pas la question, c'est que là, il n'est au service de rien, il n'est pas assez subversif pour faire sens, et surtout leur histoire n'a ni queue ni tête.
Alors on va écouter tout de suite un extrait de ce Titanic avec le morceau I'm Alive, qui n'était pas du tout hein, dans le Titanic de James Cameron, mais figurez-vous dans la BO de Stuart Little.
When you call on me, when you call on me, when I hear you breathe. Okay, I can hear you breathing. I get wings to fly. I know that I'm alive. And so are you. When you look at me and you can't stop looking right, I can't touch the sky. God knows that I'm alive. How is everybody doing over here? And how is everybody doing over here? How is Mariah Carey doing over here?
I don't know her.
I'm Celine Dion. You set my heart on fire. Fill me with love. Maybe a woman on clouds above. God knows that, I'll be the one standing by through good and through trying times. Totally begun. I can't wait for the rest of my life.
Titanic, au Lido, Zoé Sfez est déjà en train de danser, donc je crois que les références, vous devez les avoir, les références
gays.
Alors,
non, mais alors les références gays, oui, les références musicales, non. Alors moi, je connaissais 4 chansons dans ce spectacle, en tout et pour tout, ça fait pas beaucoup, y compris si on compte...
La Belle et la Bête, vous la connaissiez, je
évidemment,
crois.
Évidemment, voilà. Ça, oui, j'avais 8 ans, j'en rêvais.
Voilà.
Non, alors, il faut être clair. De quoi on parle?
Soyons
ce spectacle
clair.
A été vendu dans le métro comme la comédie musicale. Les plus grands titres de Céline Dion... pour réécrire l'histoire de Titanic. C'est faux, c'est pas le bon pitch du tout. C'est pas du tout ça, ce spectacle. Ce spectacle, c'est quoi? C'est la pure tradition. Donc, les trois personnes qui ont créé ce spectacle viennent de ces scènes impro qui sont vraiment une pratique. Hein. Faut quand même se rappeler que l'impro, que les spectacles d'impro, c'est une espèce de gymnastique qu'on met en place en permanence quand on est un comédien, une comédienne de Broadway. C'est la satire, la satire, la satire. Et là, on est vraiment sur un spectacle qui, en fait, a pris du succès. En fait, ils ont décidé de le faire un peu sérieusement et ça a eu un succès complètement fou. C'est devenu culte au sens où c'est d'abord leurs copains qui sont venus les voir, puis toute une série de gens qui goûtent particulièrement ces références. On est vraiment dans un esprit qui croise celui de SNL avec une culture profondément gay qui a, pour principe, justement...
SNL, Saturday Night Live.
Saturday Night Live, de cumuler les références pour que les gens se sentent dans un monde qui est à eux. Bah, c'est vraiment un spectacle que tous les gays des États-Unis qui habitent dans le Midwest vont prendre un ticket pour aller voir quand ils sont à New York et se sentir acceptés. Ça, c'est le spectacle et c'est pour ça que je pense qu'aller le voir à Off-Broadway, avec la foule de Off-Broadway qui vient voir ce spectacle, qui rit à toutes les blagues, ce qui n'est absolument pas le cas au Lido, ça doit être intéressant. Les références, c'est quoi? C'est Kimmy Schmidt, ça va de Netflix à toute la pop culture, toutes les figures gays, même pas queer, hein, parce qu'on est vraiment, il s'agit de garçons. Bon, en gros, je vous la fais courte, tout le monde est gay à bord du Titanic, il n'y a que la pauvre Rose qui essaie désespérément d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, mais ça ne marchera jamais. Ils ont tous des postiches de zizi. Il y a des bites, on va le dire concrètement, sous toutes leurs formes, dans tout ce spectacle en permanence.
Il n'y a pas beaucoup de formes en même temps.
Voilà, mais le principe, c'est quoi? C'est, on est sur de la surperformance, tout le monde chante hyper bien, tout en faisant hyper rire, mais en étant jamais faux. Alors, visiblement, vous avez eu des gens qui chantaient faux, nous, vraiment,
oui.
C'était pas le cas. Vraiment pas le cas. Et on va pas spoiler, mais en gros, il faut avoir les références, et notamment pour la fin. C'est très très dur au début. Moi, j'ai fini par y aller quand ça pète complètement à la fin. C'est-à-dire, il ne s'agit plus du tout d'un naufrage, il s'agit de Drag Race. Mais encore une fois, si vous ne connaissez pas RuPaul, Drag Race, et c'était vraiment pas le cas d'une bonne partie du public du Lido qui était avec nous, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et en gros, c'est Jack qui est une queen qui, elle, n'a pas réussi son lip-sync. C'est pour ça que Jack meurt dans Titanic. C'est ça qui est génial. Bon, ça, en fait, c'est un problème culturel. Il n'y a pas la moindre vulnérabilité, jamais, à aucun moment. Le fond, c'est la culture des divertissements qui se met en abîme et se met en abîme et se met en abîme elle-même jusqu'au mauvais goût, jusqu'à plus soif. Donc c'est un objet culturel, c'est hyper intéressant pour comprendre ce que c'est que la culture libérale américaine. Voilà, c'est pas hyper intello. De toute façon, on va nous tuer parce qu'on est des gays et parce qu'on vit dans une société américaine hyper violente. Donc tout ce qu'on va faire, c'est se foutre de notre propre gueule de manière hyper violente sans jamais laisser pointer l'émotion, le tout en vous montrant qu'on chante mieux que vous tous et qu'on est capable d'avoir un rythme fou. Céline, là-dedans, on l'a perdu. On va
parler de Céline et Marie. Vous, problème technique pour vous, pas musicalement, pas très intéressant.
Alors,
non plus.
Technique, non. Parce que quand on arrive et qu'on voit un spectacle de Broadway, là c'est du off-Broadway, mais quand même ils ont une maîtrise du plateau qu'on n'a pas, et ça je suis d'accord avec vous, c'est peut-être le seul point où on va se rejoindre, c'est-à-dire que c'est vraiment au cordeau, il y a un rythme qu'on a nulle part ailleurs, les chorégraphies sont au millimètre près, on sent qu'ils tournent ça depuis 1000 ans, c'est supra-maîtrisé, ce qui fait aussi que l'émotion peut pas poindre, ou l'émotion dans toute son ampleur, hein, parce que c'est tellement... cadenassé, que en fait ça devient un produit. Moi, c'est le principal reproche que j'ai, c'est ça, c'est-à-dire que on n'est plus du tout en face d'un spectacle, on a l'impression de voir un DVD, parce que tout est complètement calé, il y a rien qui bouge, c'est pas du spectacle vivant, ils sont, on dirait d'ailleurs souvent des mannequins, hein. On dirait qu'ils sont en train de se représenter eux-mêmes, en train de jouer, il y a rien qui se passe, le public il est là, il est pas là, ils s'en foutent complètement, ils font ce qu'ils ont à faire. Et il y a deux choses que je voudrais quand même dire sur ce côté marketing du spectacle, qui moi m'a vraiment outré dès le début à la fin. On te répète avant que le spectacle commence que, attention, il ne faut pas prendre de vidéos pendant le spectacle, très bien, mais par contre, que si quand même on pouvait en parler sur Instagram, donc on nous donne tous les hashtags possibles et imaginables pour en parler, donc là on est vraiment dans la culture anglo-saxonne du spectacle. Et à la fin, avant la scène finale, hein, ouais. le climax de ce spectacle, donc avec Gédo et compagnie, on nous dit, là c'est bon, vous pouvez ressortir votre téléphone, si vous voulez filmer, c'est le moment, et surtout vous allez le partager sur vos réseaux sociaux et mettre le petit hashtag machin sur les surtitres. On voit tout ça apparaître sur le côté juste avant la dernière scène. Bon, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est encore assez rare en France. Et donc quand on le voit comme ça, évidemment, moi j'ai eu l'impression de voir un produit et pas une création du tout, pas de spectacle. Je voudrais revenir avec vous juste un point sur le mauvais goût qui peut être hyper riche dans le spectacle vivant. Je suis pas contre le mauvais goût du tout. J'y pensais parce que la veille, je suis allée voir la grande cérémonie qui a été faite pour le Zerep, qui est une compagnie française spécialiste dans le mauvais goût. Ils ont fait 18 fois 1000 pire que ce qu'on a vu dans Titanic. Et pourtant, il y a quelque chose de subversif, il y a quelque chose qui fait sens et il y a quelque chose qui dit l'époque. Là, j'arrive devant ce spectacle-là, le mauvais goût est placé à un endroit du graveleux, mais vraiment, j'avais plus vu ça depuis peut-être 20 ans.
C'est-à-dire à quel endroit alors?
Bah, par exemple, je donne un exemple, il y a cette scène avec l'aubergine. Alors,
Rose,
j'imagine que tout le monde ou presque a vu ce film, rencontre Jack alors qu'elle est fiancée à un homme très riche. Elle veut partir avec Jack et elle s'approche d'une des passagères du bateau qui l'aime bien et elle lui dit « voilà, j'ai jamais connu d'homme, je sais pas comment faire, je vais le voir ce soir, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, s'ensuit un espèce de cours d'éducation sexuelle mais supra lourd où la passagère sort une aubergine et lui mime les gestes qu'il va falloir faire. Aubergine qui revient quand même un nombre de fois incalculable.
Non, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, elle lui suggère de le mettre dans son rectum. C'est ça l'histoire. Donc à un moment donné, elle ressort. Voilà. Non, mais faut quand même dire un truc. C'est un spectacle gay. Quand je dis ça, c'est qu'il y a une obsession pour concrètement le membre masculin qui vraiment peut être gênant quand on est. Alors déjà quand on est des femmes. Et puis alors moi, je suis allée voir ce spectacle par exemple avec des lesbiennes. Ça marche pas du tout. En fait, c'est pas du tout. C'est une culture de voilà. Mais là, dans tout ce que vous dites, Marie, et ça rejoint ce qui est marrant dans leur vision de Céline Dion, parce que c'est aussi ça. On se rend compte qu'on parle pas du tout de la même Céline, eux et nous. Eux, ils parlent de la Céline du Caesar Palace,
de Las Vegas, avec les paillettes.
Et c'est quoi la Céline du Caesar Palace? La Céline que les Américains aiment, c'est cette Céline de la performance, cette Céline qui est devenue presque un carton-pâte et rien ne laissera transparaître derrière. Oui, mais c'est quoi la culture gay aux États-Unis? C'est la performance. C'est-à-dire on est obligé de performer, sinon on est mort.
Non, mais moi, la performance ne me gêne pas. Hein. C'est pas la performance qui est gênante dans ce spectacle. Non, mais c'est les blagues.
Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai pas nécessairement goûté. Après, il y a un moment donné où, à la fin, quand ça part complètement en sucette, et c'est là que c'est plus intéressant, c'est-à-dire que la dernière partie du spectacle, où carrément il lâche complètement, il n'y a plus de personnages, il y a quand même des gens dans cette troupe, la mère de Rose est en réalité une personne queer, est un personnage de drague, parce que c'est tenu par un homme, qui est lui, je pense, une créature que j'aurais aimé voir dans un autre spectacle. On sent qu'il a un long personnage de drague, hyper, lui, il chante presque pas d'ailleurs, vraiment hyper délicat, hyper intelligent. À la fin, quand ils acceptent que c'est littéralement n'importe quoi, là, ça devient génial. Et on finit par être conquis par l'énergie, je trouve. Quand on a décidé qu'on arrêtait, en fait, de nous poser des éléments pour nous montrer comment on allait les invertir. À un moment donné, ça part complètement en sucette, on n'a plus rien à voir avec Titanic. Céline Dion, d'ailleurs, devient complètement un peu secondaire dans toute cette histoire, parce que c'est pas elle la star de ce spectacle.
Mais elle est secondaire depuis le départ. Dans la dramaturgie. À part les chansons sont assez présentes. On pourrait dire au départ que c'est une comédie musicale un peu jukebox. Vous savez, dès qu'il y a un événement, boum, il y a une chanson qui apparaît de Céline Dion, qui n'a rien à voir avec Titanic, mais peu importe. Là où ils ont fait, à mon avis, aussi une erreur dans cette version en France, c'est qu'ils n'ont pas traduit les chansons. Ouais. Alors, non seulement c'est le répertoire de Céline Dion qu'on connaît moins parce que c'est ces chansons américaines. Alors certes, on en connaît 3 ou 4 en effet sur les 15 ou 20.
Go On, celle-là on la connaît.
Évidemment.
Voilà.
Myself
quand même, qui est le grand truc.
La plupart, on les connaît pas. Donc ça tombe un peu à plat. Ils essayent d'ambiancer tout le monde, mais en fait, personne ne bouge à part, en effet, les 3-4 fans qui sont là et qui vivent le spectacle, eux. Bon, donc avoir... S'ils avaient traduit les chansons comme ils ont traduit le texte, peut-être que les gens se seraient un petit peu appropriés. Là où je trouve ça, en effet, presque intéressant culturellement parlant, c'est que Céline Dion, en effet, on ne la reconnaît pas du tout. C'est-à-dire qu'on reconnaît ses tics, parce qu'il la parodie, elle aussi, donc c'est une espèce de truc un peu sur le love, c'est-à-dire que dès que quelqu'un l'approche, elle aime tout le monde. Enfin, vous voyez, c'est ce côté un peu cheesy de la Céline Dion qui est assez bien fait. Ok, mais en fait, ce qu'elle représente dans ce spectacle, et pourquoi ils l'ont choisi, elle, comme pitch de départ, moi, j'ai toujours pas compris, parce que cette histoire n'a aucun sens. Mais alors, si ça n'a aucun sens, ne faites pas d'histoire. Qu'il y a une histoire. La fin où vous dites, Zoé, je reprends votre expression que ça part en sucette, c'est quand même que l'iceberg, lui, est personnifié. Donc, il s'appelle...
C'est Tina Turner.
C'est Tina Turner et il s'appelle l'iceberg salope. Et c'est lui, en fait, c'est elle, enfin, elle, lui, je ne sais pas, qui va faire sombrer tout le monde. Mais en fait, ils ne meurent pas, ils vont tous être vivants. Grâce à quoi? À la puissance de la voix de Céline Dion qui va sauver le monde entier. Je vous dis ça pour vous montrer à quel point ce film narratif n'a aucun sens et que je ne comprends pas pourquoi on écrit des livrets pour pas le faire.
On va s'arrêter là sur Titanic avec de Marla Mindel, Constantine Rousouli et Ty Blue qui est à la mise en scène également. C'est jusqu'au 22 juin au Lido à Paris avec, il faut le préciser quand même, Astrid Harris dans le rôle de Céline Dion. Et de toute façon, de Céline Dion, il est toujours question avec votre coup de cœur, Zoé.
Eh ben écoutez, c'est un très très beau contre-pied parce que dans cette critique de ce spectacle qu'on vient de faire, il y avait en fait pas beaucoup d'amour pour Céline Dion. C'est la Céline Dion des grandes chansons américaines et en fait nous, c'est qui notre Céline Dion? C'est la Céline Dion qui chante Goldman qu'on a vu à 14 ans avec ses dents pas refaites. Et là, on est sur un spectacle qui prend le contre-pied, vraiment deux interprétations de cette figure populaire. C'était des Américains gays qui viennent de l'impro pour Titanic et là, dans mon coup de cœur, c'est deux femmes, notamment une autrice et metteuse en scène géniale, féministe, hein, c'est ça qui est intéressant. Elles sont donc c'est Juliette Navis qui met en scène ce spectacle avec Laure Matisse, l'immense comédienne Laure Matisse, dans le rôle principal. Un spectacle sobrement intitulé Céline. C'est la grande logique de Juliette Matisse de prendre des figures populaires. Elle a travaillé aussi sur la figure de Jean-Claude Van Damme. Et là, c'est exactement le contre-pied de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui commence et qui va imposer son rythme propre, qui démarre comme si on était sur du stand-up. Donc on se dit, ah tiens, c'est la Céline. Débarque une femme qui parle avec un accent québécois, qui est en mi-tenue de scène, mis à poil, avec une vieille charrette de vieille canadienne. On se dit, mais c'est elle Céline Dion? Mais en fait, non, c'est peut-être pas Céline Dion. C'est peut-être une comédienne qui intervient en EHPAD. Elle nous parle d'une autre Céline qu'elle a rencontrée, mourante dans un EHPAD, qui pourrait être Céline Dion, mais qui en fait... Et aussi Blanche-Neige, qui a découvert sa voix en chantant dans les forêts du Canada. Et c'est un spectacle qui commence avec ce rythme de la performance de cette Laure Matisse qui tient tout. On se dit, bon, intéressant, ça va être un spectacle sur le thème du stand-up autour de Céline Dion. Et puis, en fait, c'est pas du tout ça. C'est un spectacle qui interroge la notion de performance. Qu'est-ce que c'est performer? Qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est être une femme qui performe, et qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? Et c'est l'approche française, l'approche française féministe, une approche française féministe de Céline Dion. Il n'est jamais question, ça ne chante pas, il n'est jamais question de René, on n'est jamais goguenard, on ne va jamais chercher justement les tics qui nous font penser à Céline Dion. C'est vraiment interroger ce que cette notion de Céline raconte, de la notion du travail, de la performance, de la notion de la vieillesse aussi, parce qu'on a évidemment tous en tête la performance, ça appelle la mort, et cette Céline Dion qui est enfermée dans son corps et qui ne l'est pas, mais rien de tout ça n'est raconté. C'est un spectacle qui est totalement propre à celle qui l'écrit, à celle qui l'incarne, qui impose son rythme propre, et qui pourtant prend cette figure de Céline et l'emmène avec une tendresse, une intelligence, une bienveillance, et aussi il trouve des choses d'une intelligence qui font qu'on ressort de là plein d'amour pour ces trois personnes. Voilà. C'est l'état qui tourne.
Parfait. Céline de Juliette Navis, mise en scène par Juliette Navis, effectivement tournée, puisque 15 et 16 mai, ce sera au théâtre de Cornouailles à Quimper, et du 20 au 22 mai au Quartz à Brest.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec un immense classique revisité par l'adaptatrice et metteuse en scène Elsa Grana. De La Mouette de Tchekhov, elle fait ici une mouette. Ici, c'est-à-dire dans la salle Richelieu de la Comédie Française, la plupart des personnages imaginés par Tchekhov sont bien là, du jeune Treplev qui rêve de trouver des formes nouvelles pour exprimer ses idées, à Nina, jeune provinciale et actrice débutante, en passant par Trigorine, auteur reconnu, et surtout Arkadina, célèbre actrice adulée à Moscou. Je dis surtout car c'est autour de son personnage que tourne cette version de La Mouette. Sur scène, c'est Marina Hans qui lui prête ses traits. On va commencer avec un avis rapide de l'une et de l'autre. Marie Sorbier.
Bien, j'ai beaucoup de choses à en dire. Je crois que je pourrais parler une heure, alors je vais essayer de me contenir. Mais en gros, c'est à la fois totalement raté par certains côtés et très, très, très réussi dans d'autres. Alors, je suis vraiment clivée ou fragmentée, hein, comme dirait Irina dans la pièce. Je crois que finalement, l'emporte la beauté de certaines scènes et surtout pour moi, l'incroyable Adeline Dermy qui interprète Nina et que j'ai trouvé vraiment fantastique parce qu'elle m'a fait entendre ce rôle de Nina que je crois que je connais vraiment par cœur d'une façon différente.
Zoé Sfez.
Oui, alors moi je suis plutôt très enthousiaste, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui a des petits problèmes quand même, mais en même temps je trouve qu'il y a, le geste est tellement intègre qu'à un moment donné on est emporté, même si parfois on est un peu agacé. C'est une femme, Elsa Grana, qui essaye d'être aux prises avec le présent, or la question du présent c'est la question de Tchekhov de manière générale, mais la question de La Mouette en particulier, avec la question des formes nouvelles et des formes anciennes. Elle a vraiment beaucoup trituré la pièce, on va y revenir, sur la manière dont elle essaye de resserrer à la fois sur Nina, mais qu'elle nous fait entendre d'une manière différente, et sur ce personnage donc d'Irina, d'Arkadina, incarnée par Marina Hans. Alors je sens que vous, ça vous a agacé, mais moi vraiment, incroyable quand même prestation d'acteur encore de toute la troupe du Français. Je pense qu'il y a quelque chose qui l'emporte dans ce spectacle, c'est la vitalité. La vitalité et du geste de Grana, et des acteurs et des actrices de cette pièce, mais aussi de la langue de Tchekhov, extraordinairement bien traduite. Il faudra encore rendre à César toujours ce qu'il y a à César, par André Markowitz et Françoise Morvan. Donc il y a quelque chose quand même, on sort de là, on peut être agacé, mais on est pris.
On écoute un extrait de cette mouette d'Elsa Grana à la Comédie Française, avec une scène où Treplev, incarné par Julien Frison, parle justement de théâtre et de son actrice de mère, Arkadina.
Ma mère ne m'aime pas, je pense bien. Elle a envie de vivre, d'aimer, de porter des petits corsages clairs. Et moi, j'ai déjà 25 ans et je lui rappelle sans cesse qu'elle est déjà plus très jeune. Quand je suis pas là, elle a 32 ans. Quand je suis là, elle en a 43. Et c'est pour ça qu'elle me déteste. Elle sait aussi que je ne reconnais pas le théâtre. Elle aime le théâtre. Elle se figure qu'elle est au service de l'humanité. Mais les grands prêtres de l'art sacré, ils sont là. Et ils déclament, ils déclament, ils déclament. Ils font de l'air comme ça avec leurs bras. Et ils crient. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des crieurs publics. Mais ça suffit là, c'est fini. Non, c'est fini, on n'a plus besoin de crieurs publics. Allez, allez, ça suffit, rentrez chez vous. Allez. Non mais ils te mettent les passions en pièces. Te les ravages en loc. Et moi, eh bien ça m'offense l'âme. Même quand on rend des émotions. Dans la tempête, dans l'ouragan, on peut espérer un peu de pudeur, non? Hein? On est d'accord? Non, ils sont là à se répandre. Et moi, quand je vois ce pauvre public qui se bouche les oreilles devant tant de bruit, eh bien, je compatis. Elle est où la délicatesse dans toute cette pantomime? Il est où le miroir qu'on présente à la nature? Ah, pour créer, il crée. Alors là, il crée au kilomètre, il crée, mais toujours de travers. Ils imitent tout, mais de biais, comme ça, coucou! Bon, ça, c'était pour la forme. Pour le fond, allons-y, il n'y a rien de sacré là-dedans. Pour moi, le théâtre contemporain, bah, c'est de la routine, c'est du préjugé. Quand le rideau se lève et que sous une lumière du soir, ses grands talents nous montrent comment on mange, on boit, on aime, on fume, on porte son complet veston. Quand de ses tableaux et de ses phrases vulgaires, il s'évertue à tirer une morale. Non, mais si, une petite morale quotidienne à la portée de tous, adaptée à l'usage domestique. Quand sous mille variations, ils me servent la même chose. La même chose. La même chose. Eh ben moi, je me sauve.
Une mouette d'Elsa Grana à la Comédie Française. Marie Sorbier, les libertés qu'elle a prises avec ce texte, on les entend bien là.
Ah oui.
Est-ce que ça fonctionne?
Alors pour moi, pas du tout. C'est vraiment tout l'aspect raté de ce spectacle. C'est-à-dire que souvent, on dit pourquoi on remonte un classique. Parce que la mouette, c'est peut-être une des pièces la plus monté ces 10 dernières années avec Antigone, je crois que c'est les deux figures qu'on voit plusieurs fois par an. Donc, pourquoi remonter la mouette? C'est une question qu'on se pose souvent ici. Elsa Grana, elle prend une solution, un chemin de travers, c'est-à-dire qu'elle dit, je la remonte, mais j'ajoute. Donc, elle ajoute un préquel écrit par Tchekhov qui est sur l'enfance de Constantin, sur sa mère, en fait, Irina, actrice. Et puis, elle ajoute, elle, des parties de textes contemporains, ce qu'on vient un peu d'entendre là, qui, moi, je trouve, sont complètement ratées parce que il y a plusieurs problèmes dans ces parties. Là, un, ils sont tellement en dessous de Tchekhov que quand Tchekhov arrive, eh ben on peut entendre que la différence. Et ça, je trouve ça très cruel. Et deux, il y a même, pour moi, on a frôlé le contresens à plusieurs moments dans la pièce, et notamment au début, dans ces scènes ajoutées, parce qu'elle ajoute un côté tautologique au théâtre. Ce que je veux dire, c'est que la mouette, c'est une pièce sur le théâtre. D'accord ? Il y a du théâtre dans le théâtre. Et elle ajoute une troisième couche de théâtre. Alors, on a compris. Et je vois pas ce que ça ajoute, à part montrer un manque de confiance dans ce texte-là. Donc, j'ai été au début très agacée. Je donne juste un exemple très concret de ça. Elle ajoute deux personnages qui sont, je sais pas, des techniciens, disons. Ils sont habillés en contemporain, avec des jeans, des t-shirts, comme si c'était des techniciens plateau. Par moments, ils balayent, ils prennent les décors, les costumes, etc. Ces techniciens, par moments, prennent la parole et commentent ce qui est en train de se passer sur scène. Donc, on est dans du méta-théâtre. Il y a la scène qui se passe et eux commentent. Par exemple, il y a une robe magnifique, mais Marina Hans, avec du taffetas de partout. Et donc, ils disent, attendez, ça a mis 50 heures de travail. Elle le jette comme ça. C'est très dur à repasser. Donc, on a les coulisses du spectacle sur scène. Ça, c'est ajouter une dimension du théâtre dans une pièce qui parle du théâtre, ça ne sert à rien et surtout ça désacralise ce qu'essaie de dire, à mon avis, Tchekhov sur le théâtre, c'est-à-dire que c'est le lieu de l'imagination, c'est le lieu de la féerie, c'est là où ça part. Et donc de le ramener à quelque chose de très concret comme ça, moi, ça m'a un peu violentée. Surtout que, et là j'arrive à ma deuxième partie, quand elle laisse Tchekhov advenir, elle arrive à avoir des scènes que j'ai rarement vues dans les mouettes. Donc j'étais là, j'étais encore plus énervée en me disant, mais pourquoi juste pas monter la mouette? Le texte est sublime, elle a une troupe d'acteurs du français qui sont tous, mais voilà, extraordinaires. Alors chacun aura ses préférés. Moi, j'ai vraiment été très marquée par Adeline Dermy qui joue Nina, parce qu'elle fait une Nina très bizarre, très particulière. J'en ai jamais vu comme ça. Elle est presque hystérique à la fin. Elle est folle. Elle se déchire. C'est les lamentos. C'est vraiment les pleureuses de la Sicile, quoi. Elle s'arrache les vêtements. Et je me suis dit, en l'écoutant, mais en fait, ce que dit Nina, c'est pas tellement qu'elle pleure sa carrière d'actrice avortée, elle pleure l'amour qu'elle a perdu. C'est vraiment un chagrin d'amour qu'on voit à la fin. Je l'avais jamais vu comme ça, je me suis dit, c'est super. Deux autres scènes hyper réussies, c'est le moment de la représentation. Donc Constantin joue une pièce devant toute la famille qui se moque plus ou moins de lui. Les deux scènes sont magnifiques. Pendant la représentation, il y a ce truc de théâtre où elle leur donne des bandeaux et donc tout le public sur scène a les yeux bandés, et donc le théâtre comme lieu de l'imagination, je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. Et la scène qui se retourne, les chaises se retournent, et à partir de ce moment-là, tous les spectateurs, donc la famille qui a vu cette pièce-là, commente la pièce, mais pour lui-même, c'est-à-dire comme ce qu'on fait nous quand on est au théâtre, on sort, on se dit mais qu'est-ce qu'on a vu, mais c'était bien, c'était pas bien, ça c'est merveilleux, et ça marche magnifiquement bien.
On va terminer avec vous,
bah
Zoé.
Ouais, en très court, moi je dis juste, je suis à la fois d'accord avec Marie, mais en même temps finalement non, parce que ce qu'elle fait dans le décricotage, c'est quand même rajouter du sens, et je trouve que finalement elle a pas tort, parce que si elle arrive à faire vivre Nina d'une manière qu'on n'a jamais vue, mais aussi surtout, elle a beaucoup resserré sur le personnage de la mère, donc Irina, qui n'est plus la femme vaine et engoncée dans ses vieilles mœurs et cruelle à l'endroit de son fils, un peu gratuitement, parce que c'est son destin et qu'elle a peur de vieillir. Elle en fait un autre personnage sur ces femmes qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui, qui ont 45 ans, dont elle lui rajoute une antériorité qui n'est pas nécessairement utile sur le moment, mais après tu te dis, mais en fait oui, elle est peut-être passée à côté de sa vie, qui nous prend à partie à la fin avec les lumières qui s'allument. Elle le fait tout ça à renfort de Vivaldi, vous l'avez entendu, d'autres textes, de musique TikTok. Parfois on se dit, oh, c'est un peu beaucoup, et en même temps il y a quelque chose de vital. Elle dit quelque chose de vital. Or c'est tout le propos de notre ami Tchekhov. Et donc oui, elle rajoute, mais je trouve que pour avoir vu cette pièce avec beaucoup de jeunes dans la salle, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit dans ce texte qui effectivement va forcer un peu l'entrée de Tchekhov pour des gens avec effectivement une langue qui est un peu inégale, mais c'est pas grave parce qu'au fond elle a un propos. Et effectivement, je trouve que ce projecteur jeté sur le personnage d'Irina, qui est un autre contre-pied qui permet la transformation de Nina aussi, nous permet de voir des personnages qu'on a, moi je trouve, jamais vus. Et encore une fois, je le redis, mon Dieu, les acteurs du français, quand ils sont bien dirigés, c'est vraiment les meilleurs du monde, quoi. Il faut le dire, le redire, le re-redire. Marine Hantz, Adeline Dermy, Biran Ba, le tout jeune, incroyable.
Loïc Corbery, dans le rôle de l'écrivain, il est magnifique.
Mais c'est incroyable. Et même l'écrivain, il prend une autre couleur. Oui, oui. Tout le monde a une couleur. Quel boulot incroyable de clairement, tout le monde sait qui il joue, à un point que moi, j'ai en fait finalement rarement vu dans Tchekhov récemment, on va dire. Voilà. Tout le monde arrive avec, comme si en fait on était en 2022 et que c'était maintenant que ça se passait. Donc oui, il y a des défauts à cette prise de risque, mais je trouve que le geste finalement est totalement réussi.
Et donc c'était Une Mouette, adaptation et mise en scène d'Elsa Granat d'après Anton Tchekhov. C'est jusqu'au 15 juillet à la Comédie Française avec la troupe du Français. Et je précise que Marina Hans, Elsa Granat et Biran Ba, que vous avez cité Zoé, seront les invités d'Arnaud Laporte. Ce sera samedi 17 mai à 18h. Évidemment, toutes les références des deux pièces dont nous avons parlé aujourd'hui sont sur la page des Midi de Culture.